28 pays et une seule actu, c'est l'espace Europe.
Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Espace Europe, l'émission où l'on s'attarde sur le poil à gratter dans le cou de nos chers dirigeants et dirigeantes des 28 pays de l'Union. Une Union d'ailleurs sous tension politique, hein, que ce soit avec le résultat des votes nationaux comme régionaux, chez nous en Belgique ou encore en Bavière, chez nos amis allemands, qui ont vu le recul des formations politiques traditionnelles comme les négociations sur le Brexit, qui patine d'ailleurs à un moment assez ultime juste avant le Conseil européen. Après ça, on aura l'occasion de débattre du thème trouvé par notre invité, l'investissement dans les compétences. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bienvenue dans l'Espace Europe.
Mais que fait l'Europe? L'actualité des 28 dans l'espace Europe.
Et cette semaine, c'est avec très grand plaisir d'accueillir de nouveau celui que l'on retrouve à la tête du bureau bruxellois du think tank Confrontation Europe à Bruxelles, Édouard Simon. Bonjour.
Bonjour Léo.
Je suis ravi de pouvoir vous retrouver. Ça va votre semaine? Impeccable.
Ça va, très bien.
J'ai entendu dire que vous courriez partout, mais ça, c'est parce que vous avez beaucoup d'engagement, à moins que ce soit notre chère actualité. Faisons un rapide tour. Une sélection subjective des deux thèmes d'actualité qui nous occupent pour ouvrir cet espace Europe. Commençons déjà par les élections, puisque l'on votait alors un petit peu partout. On votait ici chez nous pour les communales en Belgique. On votait aussi dans le Länder de Bavière, Bayern, avec des résultats qu'on cherche souvent à interpréter à un niveau européen. Car si les formations traditionnelles ont reculé, que ce soit dans le partenaire, la CSU, CDU, en Bavière, avec une montée par exemple de l'AFD, on renote aussi parfois aussi un petit peu chez nous le Vlaams Belang qui monte également. On a aussi un petit peu de NVA avec un recul des formations traditionnelles comme par exemple OpenVLD, Parti Socialiste ou encore, et ça se note beaucoup plus, l'EMR. Pour vous, ces élections, vous avez suivi comment, Édouard?
Écoutez, je pense que vous avez raison de noter tout d'abord qu'on observe un recul des partis traditionnels. Ça, c'est un mouvement qu'on observe de partout en Europe. Enfin, que ce soit, regardez l'élection présidentielle française l'année dernière. En Marche était un parti qui n'existait pas au moment où Macron... Enfin, un an avant l'élection. On regardait l'Italie. Le M5S et la Ligue arrivent au pouvoir avec un très fort recul de la droite et de la gauche traditionnelle. Et on observe en particulier un effondrement, et c'est vrai aussi hier en Bavière, de la social-démocratie avec justement la social-démocratie, les sociodémocrates du SPD qui sont à moins de 10% dans les résultats bavarois.
C'est une grande claque. Hein.
Une très grosse claque. C'est les principaux perdants de cette élection. On soulève à juste titre la progression importante de l'AFD, mais peut-être qu'il ne faut pas non plus la surestimer. On est quand même sur... Alors certes, l'AFD donc, qui est un parti d'extrême droite, anti-migrant...
Alternative für Deutschland.
Ouais, exactement. Anti-euro.
C'est intéressant parce que, juste pour une petite parenthèse, c'était un parti plutôt du libéral qui a été fondé par un cercle d'économistes. À la base, c'était la remise en cause de l'euro, hein, l'alternative, qui a ensuite basculé dans le giron de l'extrême droite parce que... les anciens ont été poussés à la porte, sont arrivés de nouveau avec un discours beaucoup plus anti-migration et beaucoup plus pro-sécuritaire. Ça, je referme la parenthèse.
Et avec cette tentative de repli nationaliste. Et effectivement, ils rentrent et ils sont présents dans la plupart des Länder en Allemagne, mais ils ne représentent que 10% du corps électoral de la Bavière. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que ça a beaucoup nuit à la CSU, donc le parti allié de la chancelière Merkel, ce qui va avoir des conséquences au niveau national et probablement au niveau européen. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui aimeraient bien avoir une extrême droite aux alentours de 10%. Je pense à la France, notamment, où l'extrême droite arrive à quasiment 40% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, il faut aussi garder toute proportion. Mais ce qu'on souligne moins, et ce qui est observable aussi en Belgique, notamment aux élections communales, j'habite à Ixelles et donc je peux vous en parler, c'est la très forte progression des Verts, que ce soit en Allemagne ou que ce soit de la même façon en Belgique et de la gauche, on va dire.
C'est très bien de l'avoir remarqué parce que c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Effectivement, Ecolo Groen chez nous ont très bien progressé et dans les élections en Bavière...
C'est le deuxième parti.
C'est le deuxième parti, effectivement, à quoi, 17%
Je crois quasiment 19%
même. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Quasiment 19%, donc ce qui est un score historique pour les écolos, enfin pour les Verts allemands, ce qui est un score, je crois, aussi historique pour les écolos belges. Et on a là un mouvement probablement de recomposition de la gauche européenne qui semble dire que c'est plutôt autour de ces questions écologiques qu'il y a une recomposition de cette gauche. Et, enfin, en tout cas, il y a ce qui pourrait être le début d'une recomposition de la gauche, la recomposition de la droite se faisant sur des thèmes plus identitaires, me semble-t-il.
Laissons là, en tout cas, les enseignements des élections. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler, mon cher Edouard. Passons aussi à notre deuxième thème d'actualité, car Theresa May sortait les rames devant les députés, c'était il y a quelques jours.
Faith in our democracy. Of course, it is frustrating that almost all of the remaining points of disagreement are focused on how we manage a scenario which both sides hope should never come to pass.
Theresa May qui essayait de défendre sa vision Brexit, d'ailleurs devant la Chambre des députés en Grande-Bretagne. C'est très compliqué, très très compliqué, car on pensait enfin que Européens et Grande-Bretagne allaient effectivement se mettre d'accord sur la fameuse question irlandaise, la frontière irlandaise. On s'aperçoit maintenant que ce n'est pas le cas et le Conseil arrive à très grands pas. Je trouve que c'est un pronostic qui est extrêmement sombre pour la suite des événements, car on manque de temps, on manque largement de temps pour conclure ce Brexit.
Disons qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive à la croisée des chemins sur la question du Brexit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit décider si on va vers le chaos, puisque si on n'a pas d'accord de sortie ou d'accord transitoire, ça veut dire que fin mai 2019, c'est-à-dire demain, hein, je veux dire, on a un arrêt ou une très grande perturbation des échanges entre le Royaume-Uni et le continent européen et l'Union européenne, enfin ce qui sera l'Union européenne le lendemain. Cela étant, là encore, ne nous précipitons pas et attendons de voir ce qui va se passer lors de ce grand sommet européen, parce qu'on sait bien aussi que c'est un des éléments de la dramaturgie européenne que d'organiser, de faire monter la pression, aussi pour mettre les Brexiteurs durs, les hard Brexiteurs, face à leurs responsabilités dans le camp de Theresa May, de remettre la pression sur les Britanniques et de voir si nous arriverons à un accord finalement cette semaine ou pas, ou si nous nous rachetons du temps. Parce que finalement, la sortie sèche du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc d'un hard Brexit, est la pire des options pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'option qui va arriver. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, mais il reste un problème politique majeur à traiter, qui est la question de l'Irlande du Nord, enfin de la frontière irlandaise.
Pour résumer, en fait, très rapidement, l'enjeu vraiment à très grand trait, cette frontière entre la République d'Irlande, qui a pris son indépendance, et l'Irlande du Nord, qui est encore au Royaume-Uni, est très sous tension, puisque à la fois il faudrait que cette frontière reste ouverte selon les accords du Vendredi Saint, qui garantissent la paix d'ailleurs entre les différentes Irlandes. Le problème, c'est que si l'on parle de Brexit dur, il va falloir la réinstaurer, cette frontière. Et c'est justement ça qui n'est pas compatible. Ok, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, et donc ça veut dire qu'on réinstaure un régime assez sec en ce qui concerne les frontières. Or, on ne peut pas, car il y a des questions de paix qui entourent justement cette fameuse frontière d'Irlande du Nord.
Et peut-être faut-il juste préciser que pourquoi est-ce qu'il faut réinstaurer ces frontières. Ce n'est pas uniquement pour des raisons idéologiques, parce que le Royaume-Uni sort de l'Europe, donc il faut remettre un poste frontière. C'est parce que si le Royaume-Uni sort de l'Europe, il sort du marché intérieur et ils sortent de l'union douanière. C'est-à-dire que les produits du Royaume-Uni qui rentreront sur le marché européen seront soumis à des droits de douane comme des produits qui viennent de n'importe où ailleurs dans le monde. Donc se pose la question de comment est-ce que ces produits rentreront sur le marché européen par le biais de la frontière irlandaise. Et c'est là où se pose cette problématique, qui est finalement une problématique qui est très concrète. Aujourd'hui, les solutions qui sont proposées sont mutuellement non acceptables. C'est-à-dire que la solution européenne qui serait de faire entrer l'Irlande du Nord dans une zone de libre-échange ou dans une zone d'union douanière avec l'Union européenne serait vécu comme un démantèlement du Royaume-Uni par le gouvernement du Royaume-Uni, et de l'autre côté la proposition anglaise qui est de mettre une frontière souple est vécue comme une remise en cause de l'intégrité du marché intérieur et de l'union douanière par les Européens. Donc on est sur des positions dont il ne faut pas minimiser la dureté, mais là encore, ne nous précipitons pas et attendons de voir où est-ce que cette montée en tension nous mène.
Wait and see. Marquons une toute petite pause ici, Edouard Simon, puis après on va plonger sur le thème qui nous occupe pour cette semaine. A tout de suite.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. All Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Mais tout me paraît étranger, aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lili Marlen, dis-moi, Lili Marlen. Aus dem stillen Raum, aus der Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen. Dis-moi, Lili Marlen. Dis-moi, Lili Marlen.
Vous êtes bien de retour dans l'Espace Europe. Cette semaine, nous nous penchons sur l'actualité, mais aussi sur le thème de cette semaine avec Edouard Simon, le patron du Bureau de Confrontation Europe ici à Bruxelles. C'est vous qui nous avez soufflé dans l'oreille cette fameuse phrase, l'investissement dans les compétences. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce que je me demandais justement en introduction. Est-ce que l'on parle de ces fameuses compétences, les compétences de l'Union Européenne au travers de ça ou
Alors, pas du tout.
Ah, c'est bien ce qui me semblait.
Cette question des compétences est une question que je souhaitais soulever avec vous parce que c'est un défi majeur qui va se poser à nos sociétés européennes, pas seulement européennes, mais qui va se poser à nos sociétés européennes. C'est un défi qui nous est commun et que pour l'instant, nous ne relevons pas. Et c'est un peu avec ma casquette de lanceur d'alerte que je voudrais traiter de cette question. Alors, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre et nous sommes sur le point de vivre un certain nombre de révolutions, de transformations de notre tissu économique qui vont le bouleverser de fond en comble. On peut parler de la transformation écologique et chacun rappelle les objectifs ambitieux qu'a l'Union européenne de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça va avoir des impacts très profonds sur la structure de notre industrie, sur la manière dont on va produire des biens, des services. Mais on peut parler aussi des transformations numériques, parce qu'il n'y a pas une transformation numérique, il y en a plusieurs, et beaucoup d'études sont sorties pour nous dire que l'intelligence artificielle va, si ce n'est faire disparaître, si ce n'est créer, au moins transformer profondément nos jobs, tous nos jobs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il y a des emplois qui vont disparaître, il y en a de nouveaux qui vont apparaître. Les experts se battent à coups de chiffres sur ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a environ 100% des jobs qui, d'ici 2050, auront évolué profondément dans les compétences requises pour pouvoir faire en sorte que l'humain travaille avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un défi majeur qu'il va falloir relever. Ajouter à ça la perpétuation du phénomène de globalisation de l'économie, qui fait que là encore, parce que nous avons besoin que nos entreprises rentrent dans des chaînes de valeur mondialisées, se transforment, s'adaptent, évoluent, et donc leurs salariés aussi dans les compétences qu'ils maîtrisent. Et par ailleurs, dernier point, on a une population qui vieillit, et on va avoir aujourd'hui, dans certains secteurs, c'est très clair, je pense au secteur de l'aéronautique par exemple, un choc démographique qui va se faire avec beaucoup de départs à la retraite et donc un appel d'air, certes très bien, mais un besoin de formation très important de jeunes parce qu'on sait bien que les compétences, que les savoir-faire, elles ne s'apprennent pas que sur les bancs de l'école, elles s'apprennent dans les usines et elles s'apprennent aussi dans les formations professionnelles. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas armés pour faire face à ce type de transformation, ou en tout cas pas suffisamment armés.
C'est-à-dire une partie des jobs partiront vers l'intelligence artificielle sans nécessairement retrouver d'humains pour reprendre le poste ?
Alors, ce n'est pas tellement cette question. La question de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'emploi aujourd'hui est une question qui n'est pas tranchée pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les solutions d'intelligence artificielle sont tout simplement en cours de développement. Et donc, on ne sait pas exactement, précisément, si on va avoir affaire à des solutions d'intelligence artificielle déjà qui vont remplacer l'humain ou qui vont appuyer l'humain. Et aujourd'hui, il y a des choix à faire, des choix politiques, et ces débats, il n'est pas fait non plus sur les formes d'intelligence artificielle. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les formes de solutions qu'il va avoir, le travail humain ne va pas disparaître, ça c'est ma conviction intime. Et encore une fois, il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Il y a transformation écologique de l'économie. C'est, par exemple, comment est-ce qu'on passe vers une économie qui est plus circulaire ? Comment est-ce qu'on réduit le nombre de déchets qu'on produit ? Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les produits que nos usines produisent soient recyclables ? Tout ça, ça demande des compétences qui sont spécifiques. C'est notamment le domaine de l'éco-design. Eh bien, tout ça, il faut avoir des gens pour le faire. Il faut avoir des gens, des compétences particulières, et donc il faut investir dans la formation de ces personnes. Probablement, il faut investir dès l'éducation et il faut très clairement rapprocher le monde de l'éducation du monde de l'entreprise pour faire en sorte que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail soient mieux armés pour répondre à ces nouveaux types de besoins. Mais il faut surtout faire face aux gens qui sont aujourd'hui dans des situations d'emploi et qui demain verront leur emploi soit disparaître, soit se transformer profondément. Et à ces gens-là, il va falloir leur apporter des réponses et il va falloir leur apporter des solutions. Et aujourd'hui, on a un besoin d'investir dans ces compétences, d'investissement au niveau public et d'investissement au niveau privé. Or, sur ces deux domaines, on a des problèmes. Investissement public, je vous prendrai un exemple, c'est celui du plan Juncker. Le plan Juncker, parmi ses priorités, alors c'était un plan, c'était très bien.
Il y a un peu de tout dedans, hein, mais c'était un grand plan d'investissement, toujours en cours d'ailleurs.
Plan de relance de l'investissement, ouais. 300 milliards d'euros qui sont atteints, enfin je veux dire, c'est sur cette question-là, c'est plutôt un succès, mais c'est vrai qu'on avait un peu de tout dedans et qu'on avait de l'investissement dans des infrastructures, dans la digitalisation de la société, mais aussi dans les compétences, et les compétences étaient considérées comme l'une des priorités. Or, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres spécifiques sur l'investissement dans les compétences, mais ce qu'on sait, c'est que l'investissement social, donc l'investissement dans l'éducation, dans la santé, dans le logement social, c'est aujourd'hui 4% des fonds qui sont investis par le fonds Juncker, seulement 4% de ces 300 milliards.
Donc insuffisant à votre goût.
D'autant plus que dans ces 4%, vous avez le financement des murs des universités, le financement des murs des hôpitaux, le financement du logement social, et tout ça, c'est beaucoup plus facile à financer que des programmes de formation professionnelle, parce que c'est des petits programmes, et les grands fonds type fonds Juncker ne sont pas adaptés pour des programmes d'investissement qui sont petit. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion qui est en cours sur comment est-ce qu'on fait effet de masse, on massifie ces petits programmes pour attirer des investissements privé, puisque c'est l'objectif de l'investissement Juncker, c'est de mettre un peu d'argent public pour attirer des investissements privés vers ce type d'investissement. Mais il y a aussi des réflexes aujourd'hui d'acteurs pour qui les acteurs privés, le financement de l'éducation et de la formation professionnelle, c'est du financement public, c'est pas du financement privé. Donc il y a aussi un effort de pédagogie à faire là-dessus. Et cet effort de pédagogie, là je vous ai parlé de l'investissement public, il est aussi à faire du côté de l'investissement privé. C'est-à-dire qu'il faut, qu'on change notre état d'esprit, il faut qu'on change la manière dont on réfléchit, dont on pense la question de la formation professionnelle, et surtout, il faut qu'on sorte juste de l'incantatoire et du déclaratoire. Moi, je vais vous donner un exemple qui est très simple à comprendre. C'est aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous décidez d'investir dans la formation de vos salariés. Comptablement, on va considérer que ces investissements sont des charges, c'est-à-dire qu'elles sont réputées, consommées, détruites à la fin de l'année. Les au contraire d'un investissement dans une nouvelle machine. Si on passait ces investissements, ces dépenses en formation professionnelle en investissement, le message aux entreprises serait non seulement vous allez pouvoir avoir un effet fiscal bénéfique, mais par ailleurs, il y a un changement de mentalité qui s'opère et qui tend à montrer qu'aujourd'hui, on investit dans l'humain, qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui composent une entreprise, parce que c'est ça, à la in fine, une entreprise, c'est un collectif d'hommes et de femmes qui sont réunis ensemble pour faire quelque chose, mais c'est un collectif d'hommes et de femmes. Donc, on donne une vraie, matérialité à cette idée que on a un investissement humain.
Avant de poursuivre, Edouard, moi je suis quelqu'un de la génération 1990, hein. C'est à ce moment-là que ma génération a vu le monde, et pour nous, le grand choc, la grande mutation qui est intervenue était au tournant des années 2000, quand on s'est aperçu qu'Internet allait déjà arriver, était accessible à tous, et pas simplement aux universitaires ou aux militaires, et donc du coup allait transformer notre société. Là, les mutations dont vous nous faites part sur l'échelle du bouleversement, c'est encore plus que l'arrivée d'Internet et même de ses possibilités.
Oui, parce qu'aujourd'hui, Internet a été un bouleversement, et ça n'a pas été un bouleversement seulement en matière économique, c'est un bouleversement en matière de pratiques sociales. On a vu apparaître les réseaux sociaux, ça a été une transformation très forte pour le meilleur. On ne perd plus ou pas trop le lien avec ses amis, mais parfois aussi pour le pire, et on peut penser au cyberbullying par exemple, au cyberharcèlement.
Cyberbullying, vient de bully, c'est-à-dire en gros être la tête de turc à l'école, ouais. Mais sauf que ça se poursuit sur les réseaux sociaux.
Exactement, hein. Et donc ce qui fait que ça ne s'arrête jamais, mais ça a été aussi une transformation économique. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de se dire, c'est pas on invente, il n'y a pas un nouvel outil qui se déploie, un nouveau réseau qui se déploie. Aujourd'hui, c'est les chaînes de production traditionnelles qui sont en train de se faire disrupter, en quelque sorte, digitaliser, avec l'avènement de la donnée comme une sorte de matière première. Même si l'analogie n'est pas forcément toujours très heureuse et ne fonctionne pas sur tout, aujourd'hui, on a une transformation très claire de ces chaînes de production traditionnelles que nos champions industriels aujourd'hui ne peuvent pas rater au risque d'être marginalisés sur le plan international, enfin, et d'être marginalisés tout simplement, et de disparaître.
Dans le plaidoyer que vous êtes en train de faire d'ailleurs à notre antenne, Edouard, en ce qui concerne justement ces mutations, et pas simplement dans le domaine des nouvelles technologies, mais sur le défi écologique, sur tout ce qui est le courant de la responsabilité sociétale des entreprises et aussi environnementale, on peut l'étendre jusque-là. Vu qu'on est dans l'espace Europe, j'imagine que vous allez nous dire que la solution est avant tout européenne et non nationale.
Mais en fait, pourquoi est-ce que la solution est européenne ? La solution est européenne. Enfin, le défi est européen. Le défi est européen. C'est un défi qui concerne toute notre économie et qui nous est commun. Nous pouvons décider de le faire chacun de notre côté. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut continuer à faire fonctionner l'Union européenne, à avoir un marché intérieur, à avoir une économie de plus en plus intégrée, et on sait aujourd'hui, on le voit bien, avec les pressions américaines, chinoises, que cette intégration de l'économie européenne est une nécessité, il faut réfléchir à ces questions au niveau européen. Je ne veux pas rentrer dans ces batailles de chapelle sur les compétences de l'éducation n'est pas une compétence de l'Union, la formation professionnelle est une compétence d'appui, etc.
Sachant que c'est toujours un domaine sensible, hein, puisque juste pour résumer, les compétences, les États membres déduisent qu'une compétence, par exemple celle de la pêche, est une compétence qui relève de l'Union européenne. Donc, les différentes nations de l'Union se disent non, ça appartient à l'Union européenne, c'est donc dans l'Union européenne que ça se décide. Or là, le problème, c'est que vous prenez un thème qui est beaucoup plus transversal.
Je suis d'accord avec vous. Cela étant, le droit est un instrument, c'est un moyen et ça ne doit pas être une finalité. Le droit est le moyen du politique et c'est le politique qui gère le droit et qui produit le droit et ce n'est pas le contraire. Donc aujourd'hui, cette répartition des compétences, il faut dans un premier temps la mettre de côté. Posons-nous la question de ce que nous devons faire ensemble, de ce que nous voulons faire ensemble, de ce qui est nécessaire pour que demain ne se retrouvent pas sur le bord du chemin des millions d'hommes et de femmes qui auront perdu leur emploi parce que nous n'aurons pas été assez prévoyants. Donc à ce moment-là, dans un deuxième temps, on pourra réfléchir à qui fait quoi. Je veux dire, la réponse n'est pas nécessairement, il faut fédéraliser une réponse, il faut avoir une réponse qui vient de Bruxelles et qui va s'appliquer partout. Non, ça c'est le contraire, ce ne sera pas efficace. Et je pense que là-dessus, l'exemple du plan Juncker que je vous ai souligné sur cette question montre bien que juste une réponse descendante ne peut pas marcher. On a besoin d'avoir tout le monde à bord. Et tout le monde à bord, ce n'est pas seulement l'Union, c'est pas seulement les États, c'est aussi les acteurs régionaux, parce qu'on sait bien que les questions d'emploi, elles se passent dans des bassins d'emploi qui se pensent au niveau régional, voire au niveau local, c'est les acteurs locaux et c'est les entreprises. On a besoin d'avoir tout le monde à bord, on a besoin de que tout le monde aille dans la même direction, parce que c'est notre intérêt commun et c'est aussi l'intérêt des entreprises. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les raisons pour lesquelles les entreprises investissent en Europe, c'est pas tellement pour le coût du travail. On le sait bien que le coût du travail, c'est pas nécessairement le facteur d'attractivité.
Non, c'est la qualification, c'est la stabilité, c'est les infrastructures, c'est le transport, c'est la connexion au débit Internet, etc.
Tout à fait. Et c'est effectivement aussi la qualité de sa main-d'œuvre, de la main-d'œuvre européenne. Et donc aujourd'hui, on a un défi qui est de faire en sorte que ce qui est un de nos points forts dans l'économie globale, le reste. C'est-à-dire que demain, on est encore la main-d'œuvre la plus qualifiée ou une de main-d'œuvre les plus qualifiées au monde et qu'elle aussi reste sur le territoire européen. Parce que quand vous regardez les experts de l'intelligence artificielle, ils sont pratiquement tous européens. Le patron de Facebook, le patron du département intelligence artificielle de Facebook, il est français. Alors, il est localisé en France, ouais. Mais il bosse pour Facebook.
Ouais.
Et on a cette problématique qui va se poser aussi.
Alors, si la réponse n'est pas forcément celle de la fédéralisation ou alors la réponse descendante, c'est-à-dire ça part de Bruxelles et ça descend, ça reste quand même une thématique européenne, puisqu'il faut se souvenir que l'un des bras armés du développement régional de l'Union européenne, ça reste le Fonds européen de développement régional. Qui sert ce sont des projets, soit des projets d'infrastructure, hein, les autoroutes par exemple, ou encore l'investissement dans le dur, dans le bâtiment. On pourrait voir l'extension par exemple des fonds et des moyens de ce fameux fonds régional pour traiter ces fameuses thématiques économiques par exemple.
C'est déjà en partie le cas puisqu'on a le fonds social européen qui finance des requalifications et on a le fonds d'ajustement à la mondialisation qui finance aussi des requalifications. Cela étant, c'est petit. On est sur des petits programmes et on n'est pas sur une vision globale d'ensemble du phénomène. On a besoin d'avoir un changement de mentalité sur ces questions-là, c'est évident, et on a besoin d'avoir, d'abord avant de donner des réponses, d'avoir un débat au niveau européen sur ces questions. Et on ne peut pas dire que la Commission européenne ne fait rien. Elle initie des choses, elle a lancé un nouvel agenda sur les compétences, elle a lancé des tests sur des coopérations sectorielles pour prévoir quelles seront les compétences qui seront nécessaires à l'avenir. Mais on reste aujourd'hui sur de l'expérimentation qui est récente d'une part et qui est probablement pas assez ambitieux, pas assez rapide et qui va prendre du temps avant de montrer ses effets. Et aujourd'hui, on n'a pas ce changement, cette prise de conscience qui est aussi une dimension. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on commence à intégrer ce type de facteurs, on transforme la manière dont on fait des affaires, on transforme le capitalisme européen et on affirme aussi ce que c'est qu'une identité européenne économique.
La valeur, les valeurs aussi
exactement,
qui les encadrent.
Face aux Américains ou face aux Chinois. Parce que c'est aujourd'hui aussi un enjeu de civilisation et un enjeu culturel fort que cette question des compétences et de l'accompagnement des transitions.
Que de mots légers pour conclure cette émission, Edouard Simon. Hein. On vous avait dit que c'était du lourd dans l'espace Europe sur les ondes de RCF. Tout ce qu'on vient de développer, j'imagine qu'on retrouve sur le site de Confrontation. Il y a du travail là-bas ou pas ?
Tout à fait, il y a du travail en cours sur ces questions.
C'est confrontation@. Edouard Simon, merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous Léo.
Et puis on se retrouve bientôt dans l'espace Europe.